Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les libraires faisaient entendre leur voix depuis mercredi et l'annonce d'un nouveau confinement. Par souci d'équité avec les librairies closes, le gouvernement a décidé de fermer les rayons culture et livres de grande surface. Nous reviendrons sur la liste très critiquée des commerces jugés non essentiels. Certains maires bravent les interdictions, exemple dans Lyon.
Les soignants du CHU de Saint-Étienne font tout leur possible. La ville est très touchée par l'épidémie de Covid-19. Reportage à suivre.
Nous ferons également le point sur l'enquête après l'attentat de Nice. Un deuxième homme est en garde à vue.
Et nous rejoindrons notre envoyé spécial à Abidjan. Les Ivoiriens votent aujourd'hui pour élire leur président dans un climat très tendu.
J-4 avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Cette fois, face aux violences des derniers mois et à l'incertitude du scrutin, des Américains se ruent dans les armureries. Nous ferons un détour par la Floride. Et dans la deuxième partie des matins du samedi, Caroline.
Comment réinventer le pouvoir? Nous serons en partie aux États-Unis, mais aussi en Pologne, où des manifestations de femmes, notamment, ont lieu depuis une semaine pour défendre le droit à l'avortement. Notre invitée sera Marie-Cécile Nave. Elle est politiste et elle vient de signer un livre intitulé « La démocratie féministe ».
Les libraires veulent obtenir l'autorisation d'ouvrir malgré le confinement. Difficile pour eux d'accepter la fermeture de leur boutique et de faire seulement à la commande, alors que les grandes surfaces, toujours accessibles au public, continuent de proposer des livres à la vente. Eh bien, hier soir, le gouvernement a annoncé la fermeture des rayons culture et livres des grandes surfaces. La FNAC aussi est concernée, Grégoire Le Callot.
Pour les libraires, c'était une mauvaise plaisanterie. La réunion d'hier après-midi entre les ministres de l'économie, de la culture, les représentants de la filière du livre et ceux de la grande distribution a sonné le glas des espoirs de la FNAC de jouer les cavaliers seuls. Par souci d'équité, écrit le ministère de l'économie dans un communiqué, les rayons culture des grandes surfaces se sont réduits à peau de chagrin. Plus de livres, plus de disques en libre-service, 8 clos pour les étages de la FNAC qui leur sont consacrés, mais pas seulement. La modification touche les super et hypermarchés. Contrairement au confinement du printemps, ils doivent aussi les retirer. Si dans 15 jours, lors de la réévaluation de la situation sanitaire, la contagion a suffisamment ralenti, alors les commerces dits non essentiels, dont les librairies, pourraient se retrouver sur la route de la réouverture, sans quoi bonjour tristesse. En attendant, les lecteurs aux appétits gargantuesques peuvent toujours commander à distance et retirer en magasin pour faire passer l'écume de ces jours de confinement.
Plusieurs auteurs et libraires ont encore fait part de leur colère. Hier, ils regrettent cette décision du gouvernement qui n'est pas ce qu'ils attendaient. Le livre devient un produit dont on interdit la vente, déplore aussi le dessinateur Johan Sfar. La liste des commerces fermés, car jugés non essentiels, continue de faire débat et par endroits, des maires s'opposent aux mesures gouvernementales. À Perpignan, Brive ou Chalon-sur-Saône notamment, les élus ont pris hier des arrêtés autorisant malgré tout l'ouverture des commerces non alimentaires dans leur ville. Exemple dans une commune de Lyon, Romain Chanson.
Migennes, ville de 7000 habitants à 20 km d'Auxerre, son maire François Boucher, inquiet pour ses commerçants, les autorise à rester ouverts.
Quand on sait que les supermarchés, hypermarchés qui composent notre ville vendent tous les produits qui sont vendus au centre-ville, il était logique que je réagisse pour retraiter l'égalité entre les différentes formes de commerce pour éviter une pratique déloyale qui est contraire au code du commerce.
Un arrêté identique a été pris à Chalon-sur-Saône, ville de 45 000 habitants, par son maire Gilles Platré. Ces arrêtés sont illégaux, rappellent les préfectures. L'Association des maires de France n'approuve pas cette forme de désobéissance civile, mais son secrétaire général, Philippe Laurent, dénonce le manque de cohérence des mesures gouvernementales.
Lorsque vous avez une boulangerie et à côté un marchand de vêtements, la boulangerie évidemment peut ouvrir, mais pas le marchand de vêtements. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a soit une ignorance de la façon dont ça fonctionne, ce pays, soit une inéquité très forte entre les différents types de commerce.
Philippe Laurent pointe une autre contradiction. D'un côté, l'État soutient des programmes de revitalisation des centres-villes et de l'autre, il affaiblit les commerçants avec ses mesures de confinement.
Même dans la majorité, plusieurs députés dénoncent une distorsion de la concurrence. L'ancien ministre de l'Agriculture et député La République En Marche, Stéphane Travert, a écrit au Premier ministre pour réclamer l'ouverture des commerces de proximité. Le niveau d'endettement s'alourdit avec les nouvelles mesures prises pour soutenir l'activité économique. La dette publique française, prévue à 117,5% du produit intérieur brut, va passer à 119,8% cette année. Un peu plus de 49 000 1000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France ces dernières 24 heures. 3368 personnes étaient en réanimation ou en soins intensifs. C'est environ 400 de plus que la veille. La deuxième vague est notamment très violente dans la Loire, avec un taux d'incidence record dépassant les 1100 cas pour 100 000 habitants. Le CHU de Saint-Étienne est contraint de déprogrammer des interventions qui peuvent attendre et espère que le nouveau confinement apportera un peu de répit aux soignants. Mathilde Imberti s'y est rendue.
Vous allez vous habiller un petit peu.
Par contre, je vais vous mettre ce type de choses.
Son cœur de métier, c'est la médecine vasculaire. Mais Patrick Missmetti, chef de service, soigne essentiellement désormais des malades du Covid.
Donc ça, c'est un service conventionnel, non Covid. Et on va arriver dans une unité qu'on a transformée en unité Covid. Cette unité, vous allez voir, elle fait 22 lits. Elle est pleine, avec des patients qui sont des patients typiques de patients Covid, qui peuvent se dégrader très très vite. On en a un qui va partir en réanimation d'ici 2 heures.
Et malgré la déprogrammation des opérations moins urgentes, le service est en ébullition.
Moi, je suis infirmière.
Vous êtes essoufflée, Justine, vous courez partout?
Un peu, ouais. Attends, c'était tendu. En fait, il y a beaucoup de patients et quand il y a plusieurs patients qui vont pas bien en même temps, toute seule, c'est un peu compliqué. On est 4 infirmières fixes et tout le reste tourne d'autres services pour venir renforcer parce que... Voilà, et bon, c'est vrai que ça rend les choses un peu difficiles.
Le CHU de Saint-Étienne fait face à une deuxième vague plus forte encore qu'au printemps.
Et on s'attend à beaucoup plus de malades en fin de semaine prochaine, alors qu'on est déjà au-dessus de la première vague. Si on ne réduit pas la circulation, nous, on ne pourra pas tenir. Viral, j'entends, hein. Ça sera impossible de tenir. Un établissement comme le nôtre, c'est 1000 lits. Il faut continuer à s'occuper des infarctus du myocarde, des accidents de la route. Donc c'est pas 1000 lits Covid, hein. Donc... on fera le maximum, on va probablement avoir à doubler les chambres, mais on espère que le confinement va stopper ça, qu'on restera dans nos capacités habituelles. Mais grosse tension, grosse pression.
La Loire affiche le taux d'incidence le plus haut de France, plus de 1000 cas pour 100 000 habitants.
Une deuxième personne est en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de Nice. Jeudi matin, 3 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau à la basilique Notre-Dame. Le point sur l'enquête avec Laure de Beaulieu.
Il s'agit de 2 hommes qui ont eu des contacts avec l'assaillant présumé de la basilique la veille de l'attaque. Le premier, âgé de 47 ans, avait été interpellé jeudi à Nice. Le second, 35 ans, réside également à Nice. Il a été placé en garde à vue ce vendredi. Simple contact ou échange, pour l'instant, on ne connaît pas la nature de ces relations. Il semble en tout cas que le terroriste soit arrivé en France seulement quelques heures avant le massacre de Notre-Dame. C'est sa famille, interrogée en Tunisie par l'AFP, qui indique que mercredi soir, a reçu un coup de téléphone. L'homme confiait être arrivé en France vers 20h. Ses proches expliquent également que le jeune homme de 21 ans était depuis 2 ans et demi assidu à la prière et qu'il était assez solitaire, ne sortant pas et n'ayant que très peu de contact avec les autres.
La basilique a prévu de rouvrir ses portes demain soir. Les 4000 soldats français qui doivent renforcer l'opération Sentinelle seront déployés en France d'ici le milieu de la semaine prochaine. Interrogé par France Bleu Occitanie sur cet attentat, l'archevêque de Toulouse a affirmé hier que la liberté d'expression avait ses limites. Selon lui, on ne peut pas se permettre de se moquer des religions car on voit les résultats que cela donne, a-t-il expliqué, des propos qui font polémique. Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit. Depuis jeudi, la Cour d'assises spéciale de Paris entend les plaidoiries des parties civiles. Les avocats des victimes de Charlie Hebdo et de leurs familles se sont exprimés à tour de rôle. Ils ont rendu hommage à toutes celles et ceux tombés sous les balles des frères Kouachi, Florence Turm.
Aucun des accusés n'est poursuivi pour cela, mais il s'agit d'assassinats politiques, d'assassinats antisémites, lance Antoine Comte. Il demande à la Cour de les prendre en considération, même si l'article de loi qui précise ces circonstances aggravantes date de 2017, 2 ans après les attentats. L'avocat interroge, où sont les jurés ? Tempête contre les juridictions spéciales, exception française détestable, puis plus doucement évoque celles et ceux qu'il représente, Chloé Verlac, Hélène Honoré, quel père ne voudrait pas avoir une fille comme elle, Patrick Peloux, Philippe Lançon et ce petit laps de temps qu'il décrit entre la vie et la mort. Si l'on survit, on le subit toujours. La défense est allée chercher les mots qui lui manquent chez les poètes et les écrivains et l'on en vient à invoquer les arts face à cette folie tellement humaine, les détails crus de la réalité, enchaîne Isabelle Gutadoro, l'avocate de Sigolène Vincent, l'une des survivantes de Charlie Hebdo. C'est le cri un Guernica en couleur, le radeau de la Méduse. La haine, la violence, la colère lui sont des sentiments totalement étrangers, poursuit-elle. Sigolène Vinson s'est inquiétée de savoir s'ils avaient accès à des livres en prison. J'aurais aimé que les accusés se montrent à la hauteur au lieu de nous servir des carabistouilles. L'histoire du marchand de mort qui vient nous raconter la vertu. Avocate, mais aussi fière, dit-elle, que Sigolène Vinson, mon amie, fasse partie de ces héros de l'humanité. Avec ce dernier message à son adresse, je sais qu'elle trouve du réconfort sous la mer, mais j'aimerais lui dire qu'il faut qu'elle remonte à la surface, parce que sous l'eau, on ne peut pas voir les étoiles.
France Culture, 8h10, suite du journal. Les Ivoiriens s'apprêtent à voter aujourd'hui pour élire leur président.
Une élection particulièrement tendue, suivie de près par l'ONU et l'Union européenne qui appellent à un scrutin pacifique. L'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, brigue un troisième mandat controversé. Sa candidature a déjà provoqué ces derniers jours des violences à travers le pays. Une trentaine de personnes sont mortes, des centaines d'autres blessées. Les Ivoiriens, traumatisés par les violences post-électorales de 2010-2011, voteront encore dans un climat de peur. À Abidjan, le reportage d'Omar Waman.
C'est un simulacre d'élection, alors je n'irai pas voter.
À Youpougon, au nord-ouest d'Abidjan, fief de l'ancien président Laurent Gbagbo, dont la candidature a été invalidée, Eric ne veut pas d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara.
Il a fait ses deux mandats, qui foutent le camp, c'est tout.
Cet instituteur restera donc chez lui ce samedi, contrairement à Sylvain, qui lui ira voter pour le seul candidat de l'opposition qui n'a pas appelé au boycott, Kwadio Conan Bertin, alias Kakabé.
Je suis pour Kakabé. Non, je ne veux plus de Ouattara.
Vous êtes très en colère contre lui?
Très en colère contre le président Ouattara. On est fatigué. Moi, j'ai perdu mon papa en 2010. Plus jamais la guerre de notre pays, nous sommes fatigués.
Tout le monde ici a en tête les événements d'il y a 10 ans, les massacres, les tueries qui ont fait plus de 3000 morts.
Ah, moi, j'ai vraiment peur, j'ai très peur.
Marie-Laure craint pour sa sécurité après les nombreuses intimidations et menaces de certains militants de l'opposition envers ceux qui comptent se rendre aux urnes.
On brûle les bus, la population même s'en va. J'ai peur même de sortir pour aller voter. J'ai peur même qu'on m'attaque, donc je ne pourrais pas sortir pour aller voter.
Cette élection ne devrait pas réserver de surprises. Le seul enjeu sera le taux de participation. Une forte abstention entamerait davantage la légitimité d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara.
Omar Waman avec Gilles Gallinaro. Pour l'élection présidentielle aux États-Unis, il faut attendre mardi et les Américains semblent nerveux. Depuis plusieurs mois, entre la mobilisation très forte contre le racisme et la peur chez les Républicains que les démocrates ne l'emportent, certains décident de s'armer. Des magasins ont été dévalisés. Exemple en Floride, dans le comté républicain de Sainte-Lucie. Sur place, Gaël Joly.
Josh vient d'acheter un fusil semi-automatique et un pistolet calibre 23. Pourtant, des armes, il en possède déjà une vingtaine, mais ce n'est pas assez, et surtout en ce moment.
Bien sûr que c'est à cause des élections. Je ne vais pas laisser les démocrates dicter leurs lois. Moi, je veux pouvoir me défendre. Regardez dans quel monde on vit. C'est un triste spectacle. C'est de pire en pire. Moi, je me protège du gouvernement et des émeutiers. Et personne ne doit m'empêcher d'avoir un pistolet.
Over 200%. Derrière le comptoir de son armurerie, Brian DeVito, le patron, a vu ses ventes s'envoler, dit-il, de 200%.
Les gens ont peur que les résultats de l'élection soient contestés ou que si Trump repasse, il y ait une guerre civile dans le pays. C'est ça leur crainte. Et là, on a de plus en plus de nouveaux clients qui n'y connaissent absolument rien aux armes, mais qui veulent s'équiper si on vient les attaquer, surtout les femmes, elles sont de plus en plus nombreuses.
Dans la boutique, Josh lui a déjà en tête le cadeau de Noël de sa fille de 4 ans, une carabine 22 long rifle, c'est l'âge, dit-il, pour apprendre à tirer.
Reportage de Gaël Joly que vous avez écouté avec nous. Marie-Cécile Nave, directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. D'après vous, doit-on craindre des violences après le 3 novembre?
Oui, il y aura des violences. Il y en a déjà. Hein. Il y a déjà un certain nombre d'individus qui sont dissuadés d'aller voter avec des intimidations dans les longues files d'attente, et notamment chez les Noirs et chez les minorités. Ensuite, il faut savoir que c'est une très petite partie des Américains qui s'équipent d'armes à feu. 3% des Américains possèdent plus de la moitié de l'arsenal qui est aux États-Unis. On l'a vu dans votre reportage, d'ailleurs, c'est la personne qui est interviewée, il en a déjà 5, 10, 15, 20. Voilà, donc c'est pas tous les Américains qui vont acheter une arme à feu. Néanmoins, c'est quand même inquiétant cette dynamique et ça prouve que il faut s'attendre non pas à une guerre civile aux États-Unis, mais sans doute des débordements armés ou non armés.
Merci Marie-Cécile Nanav, on vous retrouve juste après ce journal. Dernier week-end de campagne donc aux États-Unis et il est décisif. Les États-Unis ont par ailleurs enregistré 94 000 nouveaux cas de coronavirus hier. Il s'agit du nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie. En France, le temps aujourd'hui sera gris, parfois pluvieux dans le nord-ouest. Les températures seront plutôt douces, comptez au maximum 16 degrés à Rouen, 17 à Paris, 18 à Lyon, 21 à Bordeaux. Et jusqu'à 22 degrés à Tarbes.